Alors bienvenue ce matin. Ce matin, nous sommes, j'ai l'honneur de pouvoir prendre 20 minutes avec vous pour pouvoir faire une prédication. Et ce matin, nous allons voir qu'ensemble, que faire un barbecue, c'est quelque chose de très spirituel. Et ça me réjouit beaucoup parce que même Jésus a fait un barbecue avec ses disciples. Donc cet été, lorsque vous serez en train de faire un barbecue chez vous ou au bord du lac, vous pourrez penser à cette prédication, et même si le cœur vous en dit, m'inviter à manger avec vous. Voilà. Donc, j'ai pris ce texte de Jean 21, parce que ça se passe dans la même période qu'on vit aujourd'hui, 2000 ans avant, mais ça se passe entre Pâques, la résurrection de Jésus, et l'ascension de Jésus. Donc, on est dans cette période où les disciples ont déjà pu voir Jésus, mais il n'est pas encore remonté au ciel et il se manifeste, il se montre à ses disciples de plusieurs manières. Et ce matin, j'ai eu à cœur de pouvoir prendre le texte de Jean 21 pour qu'on puisse être encouragé dans nos vies. Hop, la zapette, magnifique. Donc ce matin, je vais nous conduire dans le texte. J'ai coupé le texte de Jean 21, il y a 14 versets, en trois parties. Et à chaque fois, je vais commenter simplement pour qu'on puisse mieux comprendre ce texte et approfondir ce que Jean essaie de nous apporter au travers de ce texte de Jean 21. Donc, Jean 21, je commence à lire, versets 1 à 2. « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. » Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme et Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Je m'arrête sur ces versets parce que ces versets en fait posent le cadre, posent le contexte de l'histoire dans laquelle Jean, l'auteur de ce chapitre, de tout l'évangile, va nous emmener. Il pose ce cadre parce qu'en fait... au chapitre 20, les versets 30 et 31, ça pourrait faire une belle conclusion. Je ne sais pas si vous connaissez les versets 30 et 31 du chapitre 20, mais Jean termine, Jésus est apparu, Thomas croit, et d'un coup, Jean dit, voilà, j'ai écrit tout ça pour que vous puissiez croire en Christ. Happy end, ça se termine. Voilà, on pourrait terminer là. Mais non, Jean prend ce chapitre 21 et moi je le vois comme une scène supplémentaire, un bonus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films ces derniers temps. Moi je suis assez fan de films de Marvel, de super-héros. Et le film se termine, il y a le générique et il y a toujours la scène bonus. La scène qui enclenche le numéro 2. La scène qui vient vous mettre un peu l'eau à la bouche et vous faire « Ah, il va se passer ça, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est juste la scène bonus pour nous montrer que c'est pas la fin. C'est pas la fin d'une parenthèse, d'une histoire qui est terminée. Il y a quelque chose qui s'enclenche. C'est pour ça que ça commence par « après cela ». Après tout ce qui s'est passé, Jésus se montre, se manifeste auprès de ses disciples. Et il nous montre qu'il y a 7 disciples sur 11 qui sont présents. Il y a Pierre, Thomas, Nathanaël. Et puis 4 autres qui sont pas cités individuellement. Jean cite Pierre, Thomas et Nathanaël. Ce que je trouve intéressant. Alors, moi j'ai travaillé sur ce texte toute la semaine, donc du coup, il y a des choses que je trouve hyper intéressantes que je veux vous partager. Mais quand on montre cette équipe de 7, les 3 qui sont cités, bibliquement, c'est pas la Dream Team. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas Pierre a renié Jésus. Thomas, il n'a pas vraiment cru à la résurrection. Et Nathanaël, au début de l'évangile, il est très sceptique, en fait. Il ne croit pas vraiment que Jésus soit le Fils de Dieu. Donc, quand on commence l'histoire où il y a Pierre, Thomas et Nathanaël, on ne se dit pas « youpi ». On se dit « mais qu'est-ce qui va bien se passer ?» Parce que du coup, c'est ces 3-là qui sont mis en avant. Et ça nous montre bien... Je pense que Jean veut nous montrer à quel point cette équipe de disciples, ils sont en questionnement. Pierre a renié, Thomas n'a pas cru, Nathanaël est très sceptique. Parce que Nathanaël, on le voit trois fois dans l'évangile, pratiquement, puis à chaque fois, il est sceptique. Donc, on voit qu'il y a un doute, il y a quelque chose qui est là. Le verset 1, après cela, c'est après que Jésus ait vécu avec eux, 3 ans avec eux, il est reparti, j'ai presque comme un retour à la normale. Après tout ça, j'imagine les disciples se poser plein de questions. Comment on va faire? C'est quoi la suite? Il nous a demandé d'aller en Galilée, donc ils sont en Galilée vers la mer de Tibériade, c'est la mer de le lac de Galilée, un autre nom. Ils sont là, ils sont ensemble et ils savent pas vraiment ce qui se passe. Le texte nous dit pas vraiment, on n'a pas vraiment d'informations sur est-ce que ils sont toujours dans leur mission que Jésus leur donne d'aller, ou est-ce que Pierre et puis les autres, parce que la moitié sont déjà pêcheurs de base, se disent bah c'est passé, maintenant on a vécu 3 ans fabuleuses avec Jésus, maintenant c'est boulot quoi. On retourne à notre métier de base et puis on va commencer à travailler. Je le nomme parce que au verset 3, on voit que Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Donc ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Ils leur dirent, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Pierre est reparti pêcher. Est-ce qu'il est reparti pêcher parce qu'il repart dans son métier en disant, « Bah, on a eu un temps incroyable avec Jésus, mais maintenant, il y a du travail et on va retourner au travail. » Il faut gagner sa vie, on revient dans le normal de la vie. Et il prend du monde avec lui, ils vont pêcher. Ce qui est intéressant, parce qu'on peut voir que dans le même passage, il y a cette même scène qui se passe dans tous les évangiles, mais à chaque fois, cette pêche miraculeuse, ou ce moment où Pierre pêche, se trouve au début de l'évangile. Se trouve au début, c'est pour annoncer qu'il sera pêcheur d'hommes, qu'il va faire de grandes choses. J'imagine un Pierre qui est sur son bateau, en train de pêcher. Jésus est parti, puis il ressasse tout ça. Il se rappelle qu'il a vécu une pêche miraculeuse. Il se rappelle de ses années vécues avec lui. Puis il doit se poser plein de questions avec les autres disciples. Mais quelle est cette suite? Il doit être pris dans des questions, dans du doute. Et il doit être quand même, j'imagine, pas mal accablé parce que Jésus, oui, est ressuscité, mais je l'ai renié. J'ai renié Jésus, donc je pourrais pas être, je peux pas être son disciple. Donc ouais, j'imagine bien une équipe qui est là en train de se dire mais qu'est-ce que le futur nous réserve finalement en tant que personne, en tant que disciple, qu'est-ce que le futur nous réserve. Je sais pas si vous avez déjà vécu des moments ou des saisons de vie comme ça où vous êtes perdu, vous savez pas ce que le futur vous réserve, ou même peut-être que là il y en a 3, il y en a 4 qui sont pêcheurs, mais les 3 autres ils sont même pas pêcheurs. J'imagine qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait là en fait ? Ils sont complètement perdus. Moi ça m'est arrivé juste avant qu'on arrive à Nyon, complètement perdu. Je me suis retrouvé dans un poste de dessinateur en bâtiment, c'est ma formation de base. Ce métier est formidable, mais je ne suis pas fait pour ce métier. Je suis pas un très bon dessinateur. Je crois que je suis quand même J'espère être un meilleur pasteur qu'un meilleur dessinateur. Mais je n'avais pas de travail, j'avais fini ma formation, je me suis retrouvé au chômage, je me suis dit, bah voilà, il faut que je fasse des postulations, je fais des postulations. Et j'avoue qu'il y a certaines postulations que j'ai faites pour les faire. Non dans l'objectif de trouver un travail. Et j'ai postulé dans une boîte de dessinateurs en bâtiment, mais j'ai bâclé le truc, quoi. J'ai envoyé la lettre de motivation. J'ai écrit un truc avec 3 lignes et demie en disant, voilà, si vous êtes intéressé par mon profil, on peut se voir. Je me suis dit, s'il me contacte, c'est que soit c'est Dieu, soit ils sont vraiment désespérés. Et je me suis dit, voilà, j'ai lancé le truc. Ils m'ont contacté. Je l'ai au téléphone, je me rappelle, c'est un matin, 9h. On m'appelle, oui, vous avez postulé, on aimerait vous voir. T'es là, comment? C'est « Non, vraiment ? D'accord. » Tu vas à l'entretien et tu dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Tu parles avec les gens, puis t'es très... Moi, j'étais très honnête avec eux. Je dis « Bah voilà, bah, J'ai un petit peu d'expérience, mais pas énormément. Voilà où j'en suis. Je suis pasteur à côté. Je suis investi dans l'église, etc. Ah, ok, très bien, très bien. Bah, écoutez, on vous engage. Oh, ok. Ça marche. Le bureau était à 5 minutes de la maison à pied. Vraiment, littéralement 5 minutes. Donc, c'était super. Je faisais des siestes à midi à la maison. C'était génial. Mais pendant 6 mois, si je me rappelle, j'avais une prière et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Je suis perdu. J'ai l'impression que tu m'as appelé à me former comme pasteur, tu m'as appelé à te servir dans un domaine spécifique, tu m'as appelé à aller dans un endroit, et je me retrouve en tant que dessinateur là. Mais qu'est-ce qui se passe? Et un peu comme ces disciples peut-être qui sont sur ce bateau, perdus. Et ils ont rien, et ils trouvent rien, ces disciples. Et on voit Jésus qui intervient, et qui vient les interpeller en leur disant « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Alors, le terme « enfant », c'est comme un... C'est plus un terme d'un... Je vais y arriver. D'un maître à ses serviteurs. Voilà, j'ai retrouvé mon mot. Donc, c'est vraiment avec une idée d'autorité. C'est quelqu'un, un rabbin ou quelqu'un qui va parler à des jeunes gens. Il y a d'autres traductions qui disent « jeunes gens, n'avez-vous rien à manger ?» Et cette question, moi, elle m'a interpellé de Jésus, parce que je me dis, mais est-ce que Jésus essaie de... Pourquoi il leur pose la question? Enfin, je me suis posé pas mal de questions par rapport à la question de Jésus. Parce qu'ils disent, finalement, non, on n'a rien trouvé. Ils sont pêcheurs, c'est leur métier, et Jésus vient leur presque enfoncer un clou en disant, mais vous avez rien trouvé? Déjà, comme d'ici, vous n'étiez pas top, mais là, comme pêcheur, c'est pas fameux non plus. Non, mais j'ai pas l'impression que Jésus va dans ce sens-là. Et je me suis rappelé que dans les histoires qu'on lit dans les évangiles, à chaque fois que Jésus est avec ses disciples sur un bateau ou sur le lac, souvent Jésus, il se passe quelque chose. Soit Jésus s'endort, les disciples sont en panique, il y a quelque chose où les disciples vont appeler Jésus, parce qu'il est là physiquement. Et Jésus, à chaque fois, va leur dire « Jean, de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Et si je résume, à chaque fois, en fait, moi, ce que je vois des disciples, c'est qu'ils ont eu le bon comportement, puisqu'ils se sont tournés vers Jésus pour leur faire une demande. Là, Jésus, il n'est plus là, donc ils ne peuvent plus se tourner vers Jésus pour leur faire une demande. Et quand Jésus vient leur disant « Mais vous n'avez rien à manger ?» avec cette question, je pense qu'il revient appuyer sur le fait que même quand Jésus était là, il leur a donné le pouvoir ou la capacité de faire ce qu'il peut faire lui. Et là, les disciples ne sont plus disciples de Jésus, ils sont pécheurs. Ils ne se voient plus comme disciples de Jésus avec cette autorité que Jésus leur donne, avec ce statut d'enfant de Dieu où ils pourraient vivre le surnaturel de Dieu dans leur naturel, dans leur individualité. Non, ils se projettent juste comme pêcheurs où le maître n'est plus là, je ne peux plus rien faire. Et Jésus vient les interpeller en disant, mais vous n'avez rien à manger. Et Jésus va leur donner une promesse, va leur dire, mais jetez votre filet et vous trouverez. Et lorsque Jésus vient dans les moments où on est perdu, où c'est difficile, où on est en doute, il ne vient pas juste nous taper sur l'épaule en disant « ça va aller ». Il y a quand même un peu plus que ça. Il y a une promesse, que juste un « ça va aller », un « essaye du côté droit parce que tu n'as pas fait le côté droit, essaye le côté droit et on verra ce qui se passe ». Il y a une promesse de trouver. Il y a une promesse de trouver quelque chose lorsque l'on obéit à Dieu. Et lorsque j'ai lu les commentaires par rapport à ce passage, il y a un commentaire qui disait quelque chose de très pertinent sur ce point-là. Il disait que c'est pas leur obéissance qui a été récompensée par une bénédiction. C'est parce que les disciples se sont soumis à la parole de Dieu que Christ a pu être révélé. Et ça, c'est une notion qui est très différente parce qu'on est plus, on n'est pas dans une notion où si tu obéis, tu seras récompensé. Parce que ce n'est pas ce que Jésus nous montre, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'obéissance est égale à récompense ou à bénédiction. Soumission à Dieu est égale à révélation de Dieu. Donc les disciples se sont soumis à Jésus. Et là-dedans, ils ont pu voir Jésus agir. Et moi, dans mon cas, si on revient en tant que dessinateur en bâtiment, perdu, je ne sais pas ce que je fais là, pourquoi, Seigneur, tu m'as envoyé là? Il n'y a rien qui se passe, il y a plein de problèmes dans l'entreprise, on me demande de faire des choses où, en fait, à la base, je ne suis même pas formé pour ça. Mais comme c'est comme il y a peu de monde, bah je fais beaucoup de trucs différents. Je dois gérer des factures d'entreprise où j'ai jamais fait ça de ma vie. Je panique, ça va pas, c'est horrible. Voilà. Encore une fois, le métier est chouette. Hein. C'est moi dans le métier où je me voyais pas là-dedans. Et ce qui se passe, c'est que dans ce désarroi, je dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Et je pense que c'est une des seules fois dans ma vie où j'ai pu le vivre jusqu'à présent, où je me suis retrouvé en tel besoin de vivre des temps avec Dieu, où Dieu crée des temps d'intimité dans ce désert, où je me suis retrouvé à aller prier aux toilettes. J'avais besoin de prier, j'avais besoin de prendre du temps avec Dieu, et j'allais aux toilettes, et je priais, je prenais un temps avec lui. Et ces temps-là, c'était... Il disait, prie et tu me trouveras, et je serai là. Et dans ce moment d'affliction, dans ce moment difficile, j'ai pu trouver Jésus. Je vous parle de ça, comme ça, ça précède un petit peu la suite. Ils jetèrent donc leur filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et à sa ceinture, car il était nu, il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Il y a plein de choses à dire sur le texte, mais ce qu'on peut voir simplement, c'est toujours Jean qui va avoir la révélation de Jésus en premier, c'est toujours Pierre qui va être dans l'action en premier, on voit le duo en action. Il y a plein de détails, je vais vite les survoler, parce que c'est pas le centre de ma prédication, ce que j'aimerais vous dire ce matin. Le centre arrive dans l'acte numéro 3, qui est le repas. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Le barbecue, on y arrive. Jésus leur dit, « Approchez, apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. On arrive au temps du repas. Et en fait, Jésus restaure ses disciples par un repas. Et moi, ça me réjouit parce que j'aime manger, premièrement. Et que Jésus restaure ses disciples, rejoint ses disciples en faisant quoi ? Un barbecue ! Alors, moi, je dis amen à ça. Parce qu'un barbecue, c'est génial, on arrive dans la saison. Si vous voulez être restauré, faites des barbecues. Non, c'est pas ça ce que je veux dire, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que la restauration que Jésus nous donne ou que Jésus donne à ses disciples trouve sa source dans sa présence. C'est parce que Jésus prend du temps avec ses disciples que ses disciples sont rejoints, sont guéris, que les doutes se dissipent, que les questionnements restent, mais il y a une paix qui s'installe. C'est par sa présence. Et la solution, Jésus restaure par qui il est. Jésus ne restaure pas par une méthode, par un fonctionnement, mais par sa personne. Et c'est là tout le changement, le paradigme qu'on trouve dans ce passage-là, c'est que Jésus va prendre du temps. Jésus va venir et il a quoi ? Il a du pain et du poisson pour ses disciples. Tout est préparé, tout est déjà pourvu d'avance. Et quelque part, Jésus va vouloir chercher à vivre une communion. Vouloir chercher à vivre un repas. Et dans l'idée orientale du repas, quand je me pose à table et que je mange avec quelqu'un, on est frères, c'est de la famille. On ne mange pas avec quelqu'un si on est fâché, si on n'est pas d'accord, s'il y a une rancœur, on va déjà régler le problème, puis après on va manger. Alors que Jésus les accueille sur la plage avec le barbecue qui est déjà prêt, le pain, le poisson, ils disent « Venez, mangez, asseyez-vous », on voit que Jésus est en train de leur faire grâce, on voit que Jésus est en train de venir simplement par sa présence rétablir Nathanaël, rétablir Thomas, rétablir Pierre. À la suite des versets 15 et jusqu'à la fin du chapitre, Jésus va prendre du temps avec Pierre spécifiquement pour le rétablir complètement et l'envoyer dans son ministère de berger. Il va dire « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ?» Enfin voilà, c'est très passionnant aussi. Mais ce passage-là se produit ou peut se vivre seulement parce qu'il y a eu le repas avant, seulement parce que Pierre a vécu un temps avec Jésus au bord d'un feu. Et je me dis que ce temps-là, plus ils ont passé de temps ensemble au bord du feu, et plus en fait les disciples se sont fait imprégner de qui est Jésus. Je ne sais pas si vous avez fait les flambeaux ou les scouts, ici dans la salle, peut-être chez vous, on a des flambeaux, on a des scouts. Dans la salle, je sais qu'on a au moins 2 flambeaux, anciennement flambeaux, sûrement même plus, qui se sont engagés avec ferveur. Ma femme a été au flambeau. Et quand on n'était pas encore mariés, que j'allais chez elle et qu'elle rentrait d'un week-end flambeau, je le savais pertinemment qu'elle rentrait d'un week-end flambeau avant même de l'avoir vue, avant même d'avoir ouvert la porte de chez elle. Pourquoi ? Parce que ça pue le feu. Ça sent. Ça prend le nez. Ça... On le sait. On n'a pas besoin de voir qu'elle est fatiguée, qu'elle n'a pas pris de douche, qu'ils sont... Non, mais voilà. Ça sent le feu. Ça sent le feu. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont pris tout leur temps à être à côté d'un feu. Plus ils ont pris du temps à passer à côté du feu, et plus le feu se s'est imprégné sur eux. Ils puent le feu. Et ce feu, ça peut sentir bon, oui, ça sent bon le feu. Moi j'aime bien cette idée de, voilà, mais c'est quelque chose où ça reste, où il faut aérer les habits, il faut faire plein de choses pour que l'odeur parte. Et je me vois Jésus à côté de ce feu avec ses disciples, et cette odeur de Jésus qui vient se poser sur ses disciples. Cette odeur de Jésus, cette « qui est Jésus » vient restaurer ses disciples, vient que finalement ses disciples, j'ose le terme, puent Jésus, et que nous aujourd'hui on est peut-être appelés à puer Jésus aussi. Mais pour puer Jésus, il faut oser et prendre du temps au bord du feu avec Jésus. Et en faisant ça, déjà premièrement, il va nous restaurer. Premièrement, il va prendre soin de nous. Il va venir nous apporter ce dont on a besoin. Et un verset qui va dans ce sens, qui est dans 1 Corinthiens, je le cherche, 1 Corinthiens 3, verset 18, je ne l'ai plus, mais je m'en rappelle, 1 Corinthiens 3, verset 18, où c'est Paul qui nous parle et il nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Dieu, nous le contemplons comme dans un miroir, et par l'action du Saint-Esprit, nous sommes transformés à son image. Voilà. Ce verset, 1 Corinthiens 3, verset 18, nous exprime, nous résume ce passage-là. Jésus, Dieu, nous transforme, mais je ne peux pas choisir qu'est-ce qui transforme en moi. Quelque part, je sais pas. Il va me transformer en son image. Je n'ai pas le choix, il ne me fait pas un listing de me dire « Voilà ce qui ne va pas chez toi, Francesco, on va commencer par ce point-là, puis on ira après dans cet ordre-là. Est-ce que tu as des objections ?» Non, je n'ai pas d'objection, je n'ai rien. Il va prendre la liste dans le bon ordre. Je n'ai quelque part pas le choix. Je prends ça et Dieu sait ce qui est bon pour moi. La seule chose que ce verset 1 Corinthiens 3, 18 nous dit et qui est représenté dans ce texte, c'est que plus je prends du temps à passer et à contempler, à être dans la présence de Dieu, plus il peut me travailler, plus il peut m'amener à la guérison, à la restauration. Et que finalement, en fait, je n'ai pas d'action sur qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie, mais j'ai une action sur combien de temps je vais prendre avec Dieu dans ma vie, combien de temps je vais rester assis auprès du feu, dans même les circonstances où je suis perdu, questionné, est-ce que... Je vais lever les yeux et voir que Jésus est au bord du lac avec un feu, du pain et du poisson et qui m'attend. Parce que c'est ce que Jésus veut pour nous. La restauration que Jésus nous donne trouve sa source dans sa présence. Voilà, c'est en une phrase, ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, c'est que sa restauration, la restauration que Jésus veut nous donner, se trouve dans sa personne, dans sa présence. Je vais simplement terminer par prier. Seigneur, je te remercie parce que ce matin, tu nous rejoins. Tu nous rejoins et tu veux prendre un temps, tu veux partager le temps d'un repas, un temps avec nous, mais même plus que le temps d'un repas, tu veux être en communion avec nous. Tu veux faire la vie avec nous. Tu veux partager notre vie. Tu veux faire partie intégrante de notre vie. Et Père, je te remercie pour ce Dieu qui est là et qui vient à notre rencontre pour qu'on puisse déposer nos doutes, qu'on puisse déposer ce qui nous afflige, qu'on puisse déposer ce qui est lourd sur notre cœur. Et tu viens simplement nous restaurer, tu viens simplement nous donner d'être un peu plus à ton image, Seigneur. Alors Père, je te prie qu'on puisse ce matin simplement aspirer à vivre plus de temps à côté de toi, auprès de ce feu. Père, et merci pour tout ce que tu vas faire et transformer dans nos cœurs pendant le temps où on sera en train de partager un barbecue avec toi. Amen.